Allons retrouver Valérie Beaudoin, qui est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Valérie.
Bonjour Mathieu.
Bon, ça a été une semaine difficile aux États-Unis avec les engins explosifs. On pensait avoir mis tout ça de côté jusqu'à temps qu'il y ait accusation contre le bonhomme en question qui a été arrêté cette semaine, mais c'est sans compter les événements d'hier avant midi à Pittsburgh. On parle maintenant de 11 morts, 6 blessés. C'est un suprémaciste blanc. C'est quelqu'un qui participait à des forums suprémacistes blancs où il a déversé son fiel sur les Juifs, visiblement depuis des années, là.
Oui, exactement. Alors, une semaine qui a commencé, je dirais, sous le signe de la violence et qui s'est terminée de la même façon, d'une façon encore plus dramatique. Et ça relance tout un débat. Et Mathieu, tu vas me dire, ça revient à chaque fois qu'il y a une tuerie, une fusillade aux États-Unis. Mais c'est vrai, le débat sur les armes à feu, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est la question que tout le monde se pose. Je dirais que non, dans le court terme, parce que à chaque fois, ça peut viser des enfants, ici une communauté religieuse, et ça ne semble pas faire bouger les choses. Encore une arme semi-automatique, le AR-15, qui a été utilisé. Et ça, je suis loin d'être spécialiste des armes à feu, mais si je vous dis Parkland, Aurora, Sandy Hook, Las Vegas, ça nous rappelle les tueries de masse aux États-Unis, tous... je dirais perpétrer avec cette arme-là. Alors vraiment, ça a relancé encore une fois le débat. Pourquoi des citoyens ordinaires auraient besoin d'avoir une arme qui ressemble à l'arme utilisée par les forces américaines? Vraiment, on se pose la question.
Je discutais avec des gens qui se connaissent assez bien, là, qui disent l'AR-15, c'est une arme d'entrée de gamme. Donc, il est assez facile, à se procurer, puis de deux, elle n'est pas trop dispendieuse non plus. Donc, c'est le genre d'armement qui est facile pour n'importe qui à mettre la main dessus. Puis même, ce que je lisais aussi, c'est qu'au Canada, on peut s'en acheter, là, ce genre d'arme-là. C'est un petit peu plus compliqué qu'aux États, aux États-Unis, mais on peut quand même se la procurer.
C'est assez drôle qu'on en parle parce que tantôt, je faisais une recherche sur Google, j'écris AR-15 et Pittsburgh, juste pour voir les derniers développements, qu'est-ce qui était dit là-dessus. Et le quatrième lien, c'était une boutique d'armes à feu avec en vente là et en vedette la AR-15. Après ouais. Ça, le sixième lien et de suite, c'était tous des ventes d'armes à feu. Alors, c'est dire à quel point c'est facile d'au moins faire la recherche, de s'informer là-dessus. Et il y a Barack Obama, l'ancien président, bien sûr, qui est après chaque tuerie du genre en disant est-ce que là on peut comprendre et restreindre la libre circulation de ces armes à feu-là qui sont pas pour la chasse ou pour la défense personnelle. C'est vraiment des armes qu'on dit d'assaut. Et Trump, au contraire, et c'est là qu'on voit la différente rhétorique entre les deux, a dit, écoutez, si les gardes, il y avait eu des gardes armés à l'intérieur de la synagogue, on aurait pu éviter la tuerie. La personne aurait été neutralisée immédiatement. Ça, tout d'abord, on peut pas le savoir exactement comment ça serait passé. Alors, la réponse est toujours avec il faut encore plus armer les gens, comme ça avait été le cas pour la tuerie de Parkland en Floride. On avait dit, écoutez, si les professeurs avaient été armés, on aurait pu sauver plus d'étudiants.
Non, mais c'est ça qui est complètement débile dans la rhétorique, Valérie, c'est que en plus, quand est arrivée l'affaire de Parkland, il y a des policiers qui sont arrivés, qui, eux, étaient armés dans les premiers et qui ont pas ouvert le feu en rentrant parce que n'importe quel policier, n'importe quel spécialiste va te dire... C'est la dernière des choses que tu veux, c'est que ça se mette à se tirer à travers une salle remplie de gens d'innocents au travers de tout ça, là.
Et tu sais jamais s'il y a des complices, s'il y a d'autres personnes, et c'est qui, surtout dans le cas d'une tuerie dans une école, comment savoir c'est qui la personne peut se cacher pour avoir caché son arme et être parmi les personnes régulières. Alors vraiment, c'est pas la solution, à mon avis, là, pour ce fléau-là.
Et ce que je trouve un peu hypocrite, honnêtement, là, de la part de Barack Obama, par contre, c'est que le temps qu'il était au pouvoir, il y a absolument rien qui a changé.
Ah, c'est tout à fait exact. On a vu Obama en larmes, on l'a vu très touché par les tueries à plusieurs moments. Et il vous dit, s'il pouvait répondre à ça, je pense qu'il dirait, écoutez, on m'a pas donné la chance de le faire parce qu'il y avait souvent un congrès qui était républicain, qui était contre lui. Et le lobby des armes à feu, on va le dire et le redire, c'est extrêmement puissant aux États-Unis. Alors changer les lois, c'est pas seulement changer les lois, c'est changer la mentalité. Parce que les Américains vont associer le droit d'avoir leur arme à feu comme un droit... de pas atteindre leur liberté personnelle. Mm-hmm. En fait, c'est quelque chose qui est un droit qui est acquis pour eux. Alors, c'est très différent du, désolé pour l'anglicisme, mais du thinking, de la pensée qu'il y a ici au Canada.
Et juste pour, tu sais, hypocrisie pour hypocrisie, c'est drôle quand même que lorsqu'ils surviennent des événements à Parkland, on dit que c'était beaucoup trop tôt pour faire un débat sur les armes à feu. Dans les heures qui ont suivi, les jours et même les semaines qui suivaient l'événement, en disant faut laisser quand même la poussière retomber, puis les défenseurs pour hommes qui étaient à court d'arguments à ce moment-là disaient c'est trop tôt pour en parler. Par contre, hier, t'as le président qui s'en va dire, quelques heures après les événements, de dire si on avait armé plus de monde, ça aurait été correct. Donc, quand c'est le temps du contrôle, c'est trop de bonheur, mais quand c'est le temps d'en mettre encore plus dans les mains du monde, ça, c'est pas un problème.
Exactement. Il a utilisé aussi le fait que si la peine de mort était vraiment encore plus, je dirais qu'elle était légalisée dans tous les États et qu'on l'utilisait, ça pourrait être une façon de décourager. Mais pourtant, dans la plupart des fusillades, les gens s'enlèvent la vie. Et je pense pas que c'est ça qui enlèverait l'espèce d'élan de folie de faire ce geste-là. Alors lui, il trouverait que la solution, ça serait d'armer les gardes et qu'il y ait plus de peine de mort.
Parlons de ce qui s'est passé avec les bombes artisanales cette fois. L'homme était un supporter fini là, du président en cours. C'est quelqu'un qui a eu quand même plusieurs démêlés avec la justice auparavant aussi.
Oui, exactement. Alors, fervent supporter de Trump, même si Trump dit que ce n'était pas un de ses fans. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est une occasion ratée du président d'unir, je dirais, le pays qui est de plus en plus polarisé, qui est de plus en plus divisé. Alors, il y a eu des moments assez présidentiels où il disait, bon, écoutez, là, on va arrêter de mettre nos différences de côté. Il faut s'unir. Les Américains, on va pas laisser la terreur, la violence nous guider. Mais quelques minutes plus tard, il se mettait à attaquer les démocrates qui étaient visés, eux, par ces bombes artisanales-là, ou des gens près, très, très près des démocrates, attaquer les médias. Et on se rappelle que CNN était visé également. Alors, on dit que c'est une chance ratée pour lui de pas continuer dans cette division-là, parce que vraiment, on est toujours, c'est très tranché en ce moment. C'est vraiment, je dirais pas l'extrême gauche dans le sens où on l'entend ici, là, mais les gens de la gauche qui vont descendre dans la rue, qui vont appeler au vote, et les gens de la droite qui se disent, écoutez, les médias, c'est l'ennemi, les démocrates, c'est les ennemis. Et bon, écoutez, là, c'est même certains disent que c'est une conspiration démocrate, que eux-mêmes se sont envoyés
les bombes. Populaire. C'est un discours encore populaire. Là. Rush Limbaugh et Christian Fauché nous en parlait hier matin, justement. Il disait qu'encore encore hier, après l'arrestation, Rush Limbaugh aux États-Unis maintenait ce discours-là à son émission de radio.
Ah oui, et les gens qui sont dans les rallyes actuellement le disent. Ils croient encore que les Clinton et les Obama eux-mêmes, alors pas des supporters démocrates, mais eux-mêmes se sont envoyés les bombes. Et dès le premier soir où il y a eu les bombes, on avait déjà des pancartes « fake news »,« fake bombs ». Alors encore, que c'est une conspiration, que même il y aurait peut-être jamais eu de bombes, c'était les médias américains qui sont contre le président Trump, qui auraient créé toute cette espèce de panique pour aider aux élections de mi-mandat, pour faire élire plus de démocrates, parce qu'ils sentaient un peu la soupe chaude.
Parlant justement des mi-mandats, on va s'y retrouver la semaine prochaine?
Ah oui, bien sûr. Alors, je vais me rendre en Floride la semaine prochaine pour couvrir pour le réseau Cogeco des courses qui vont être très, très intéressantes là-bas.
Merci beaucoup.
Merci,
salut bien.
Mathieu.
Au revoir. Valérie Beaudoin qui était avec nous, qui est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, 8h56. Dans les prochaines minutes, Christian Page se joindra à nous. On vous nommera les noms des personnes gagnantes pour notre tirage des billets de Brigitte Boisjoli.